Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
J'ai juste envie de le raconter, en fait. Tout ça, que j'avais pas raconté à personne. Je me disais tout le temps, ah, c'est, oui, c'est ça la vie. C'est dur, ça va bien. Si tu te casses la gueule, tu remontes, tu gagnes. Moi, ça a toujours été ça.
Dans la dépression, tu te caches. Tu veux plus faire face au monde.
Le gars souriant, le Joe Bontemps, le si qui va tout le temps bien, le, il est mort.
C'est un extrait de la série documentaire « Comme des papillons » qui est présentée, une série de 4 épisodes de 60 minutes. Ce sera disponible à compter de demain sur Vrai et ça porte sur la santé mentale. Pour en parler, deux invités. Louise Latraverse, bonjour.
Bonjour.
Et Hugo Roson qui réalise la série, bonjour.
Bonjour, merci de nous recevoir.
Ça fait plaisir. Pourquoi vous êtes intéressé à ce sujet-là? Vous le dites d'entrée de jeu là, que vous avez eu un diagnostic de bipolarité à un moment donné dans votre vie.
Oui, ben moi-même j'ai eu un diagnostic de bipolarité en fait. Puis je me suis intéressé à ce sujet-là parce que j'avais envie qu'on aille explorer plutôt la santé mentale et les cycles émotionnels. Parce que je trouvais souvent qu'on parlait de soi, en fait, qu'on avait un problème ou soit qu'on était normal. Mais je voyais que finalement, on est tous de près ou de loin affectés par la santé mentale. Puis je pense que ça devrait pas être un tabou de vouloir avoir une belle santé mentale puis pas nécessairement d'attendre que quelque chose arrive. Donc moi, je voulais essayer d'aller ouvrir d'autres perspectives sur ce sujet-là, en fait.
Qu'est-ce que vous avez découvert avec tous les témoignages? Louise a témoigné, Claude Legault, plusieurs autres là, qui ont accepté de se livrer.
Mais la chose que j'ai le plus découverte, en fait, c'est que tous ces gens-là, en fait, ça les a transformés pour le mieux, finalement. Finalement, ça a été des épreuves difficiles, mais qui ont réussi d'en sortir meilleur. Donc, je pense qu'il y a toujours, si on est vraiment dévoué, si on veut, on le veut, il y a moyen de transformer ça en quelque chose de bien. D'ailleurs, l'histoire de Louise, je pense que c'est une super bel exemple de ça, là.
Louise Latraverse, j'ai écouté votre témoignage. Puis bon, c'est sûr, vous êtes la génération des abus, hein, à peu près tout ce qui était connu, permis, on se défonçait, puis vous avez une vie, là, je dirais, intense, on peut dire ça comme
oui,
ça.
Oui, mais c'est, faut toujours se remettre...
Du contexte d'époque, là.
Du contexte, faut dire que là, on sortait du duplessisme, là, moi je suis arrivée, j'ai commencé à travailler à la fin des années 50, alors on entrait le début des années 60, et là, le monde changeait. Hein, ensuite, les années 70 sont arrivées, c'était la libération sexuelle, c'était le monde s'ouvrait, la jeunesse prenait sa place, ça n'avait pas existé, le féminisme est arrivé, la pilule est arrivée, tu sais, on a eu beaucoup, beaucoup de grands changements, et puis on s'est mis à avoir la chance de s'exprimer, ce qui n'était pas le cas avant.
Vous dites dans le documentaire... Quand on parle de dépression, oui. On ne parle pas d'un moment de déprime, on ne parle pas d'un moment où on est plus triste un peu. C'est quelque chose de plus lourd que oui. Ça. À quel moment vous avez senti, puis qu'est-ce qui vous a fait ressentir ça, que là, c'était sérieux, que c'était majeur comme dépression?
C'est-à-dire qu'une dépression, c'est frapper un mur. C'est-à-dire qu'on n'est plus capable. On est à bout. Ça se manifeste souvent par une très, très grande fatigue. Dans mon cas, c'est ce qui est arrivé. Alors, j'étais plus capable d'avancer. Je me suis dit, là, j'en peux plus. Il faut que je me repose. Je me disais toujours, je veux me reposer. Je voulais rester sur mon divan puis plus bouger. C'est là où j'ai vu que là, il fallait que j'arrête de vivre la façon dont je vivais. Mais comment tu changes? Tu changes pas du jour au lendemain. Et ce que je sais, ou ce que j'ai appris de la vie, c'est que quand tu te rends compte que, ou tu frappes un mur, ou que tu as un problème, il faut aller chercher de l'aide. Moi, mon seul message dans la vie, c'est toujours ça. Si t'es pas bien, va chercher de l'aide. Il y a des gens, et qui sont spécialistes pour t'aider. Il y a des gens, il y a des groupes d'entraide. Il y en a de toutes les sortes. Alors moi, j'étais très, disponible à entrer dans ces... Dans partout où il y avait de l'aide, j'y allais. Je me disais, il faut que je change ma façon de vivre. Voilà.
Mais c'était quand même complexe. Vous étiez veuve, votre mari s'était enlevé la vie, vous aviez un enfant. Comment, Puis il y avait le travail aussi.
Imagine si je travaillais. On travaillait. Moi, je me souviens, avec France, on jouait tous les soirs à Drummondville. On faisait ça aller-retour. On jouait une pièce à deux. Ça s'appelait Les deux beaux bébés de banlieue. On était deux beaux bébés de banlieue. Alors, tu sais, t'arrives à Montréal, tu peux pas aller te coucher, là. Alors, on allait au Prince Arthur, on prenait un verre avec les amis. Puis, tu sais, c'était le genre de vie que l'on menait. On travaillait tout le temps. À un moment donné, tu tombes. Tu peux plus.
Vous dites dans la série que vous avez consulté un psychiatre puis que vous ne l'avez pas lâché.
Je le vois toujours.
Pourquoi? Est-ce une béquille que vous avez?
Non, c'est pas du tout une béquille. C'est que si tu vis seul, que tu ne veux pas ennuyer tes amis, que tu veux mettre de l'ordre dans une vie où il y a eu beaucoup de désordre. J'élevais un enfant seul qui n'était pas facile, alors j'ai eu besoin de parler à quelqu'un et je ne veux pas déranger personne. Alors, j'ai la chance d'avoir ce psy que je connais depuis très très longtemps et qui a été une circonstance très favorable. Je l'ai connu dans un hôpital. J'avais été hospitalisée pendant quelques jours, justement à cause d'une dépression. Je l'ai rencontré. Et il m'a dit, si vous voulez, je vous donne ma carte. Mais comme il était un psychiatre de l'hôpital, je n'avais pas le payé. J'étais sur la gastonguette, là, moi. Là. Alors, ça m'a permis quand même de pouvoir le voir longtemps, parce que j'aurais pas eu les moyens de le voir. Et ça a apporté, évidemment, beaucoup d'équilibre dans ma vie. Et ça a libéré tous mes amis, tous les gens qui m'aiment. Je n'avais pas à leur raconter mes blues.
À vous imposer à eux.
À m'imposer.
Il y a un petit point par rapport à ça que je trouve intéressant aussi. C'est qu'une personne, exemple, qui verrait un coach sportif ou quelque chose comme ça, donc qui s'occuperait de sa santé physique, on verrait ça comme d'une manière tout à fait normale. Mais des fois, encore aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui dit « je vais voir mon psychiatre ou un psychologue », c'est un petit peu différent quand c'est de la santé mentale plutôt. Et puis même pour Louise, je pense que vous le voyez pour entretenir ça, puis justement pour rester en santé mentale. Mais je trouve que c'est super important. Puis moi, je pense que ça devrait être vu de la même façon qu'on voit la santé physique.
Oui, et tout le monde n'a pas le même départ. Tout le monde n'a pas le même équilibre dans la vie. Tout le monde part pas de la même place. Mais vite, aller chercher de l'aide.
L'autre chose que je voulais absolument vous poser comme question, on a vécu la période du confinement. Et à peu près tous les experts disent qu'il y a une augmentation du nombre de cas de gens qui ont fait dépression, des cas d'anxiété. Ouais. Comment ça s'est passé pour vous, le confinement?
Oh, moi, ça a été extraordinaire, mais moi, j'étais bien préparée. Tout à coup, j'ai décidé, évidemment, je suis restée. J'avais appris beaucoup, je crois, par les maîtres anciens, les maîtres hindous, des gens que j'ai, des maîtres spirituels, oui, on peut dire spirituels, que c'est en restant dans ta souffrance que tu te guéris. Ce n'est pas en fuyant. Alors, là, je me suis dit, tiens, je vais rester dans le silence. Au début, je trouvais ça difficile. Comment je vais faire pour pas sortir? Je suis restée là et j'ai lu un livre qui a transformé ma vie. Et c'est le livre de Nelson Mandela. Il a passé 27 ans de sa vie dans une petite cellule. Cet homme magnifique, qui était un costaud, là, qui mesurait, qui était un homme extraordinaire, et que pendant 27 ans, il a continué de croire qu'il s'en sortirait et qu'il sauverait son peuple de l'apartheid. C'est un livre, Paul, extraordinaire, vraiment. Et là, évidemment, on voit, là, sa mère parle, qu'elle voit déjà cet enfant exceptionnel, puis là, le village voit qu'il est exceptionnel, puis là, on va l'aider à devenir ce qu'il est devenu. Mais pendant 27 ans, cet homme-là va être en contact avec lui-même, il est resté en contact avec son rêve. Alors, c'est un maître, vraiment pour moi. Je me disais, hey, moi, dans ma belle maison, comprends-tu, confortable, bien installée, je mange 3 repas par jour, je ne peux pas sortir, mais so what? Comprends-tu quel privilège j'ai de vivre en ce pays, vivre au Québec, au Canada? C'est un grand privilège. On n'a jamais eu de guerre. Il n'y a pas de gros problèmes dans ce pays. Quand on voit tout ce qui se passe à travers le monde présentement, tous les matins, je me dis, oh mon Dieu, que je suis chanceuse de vivre ici. J'ai un beau jardin. Je vis dans un jardin. Puis déjà, alors tout, je vois les choses, j'apprécie tout ce que j'ai parce que ce que l'on a ici, c'est privilégié.
Comment vous l'avez vécu, cette période-là, vous? Ça a été stressant, pas stressant, le confinement et pendant le verglas? Pas le verglas, mais le collier, pardon.
Ben moi, en fait, je suis en train de faire mon premier film à ce moment-là. Je l'ai vécu quand ça a commencé, j'étais dans l'Himalaya. Donc, le début du confinement, là, je m'en rappelle tout le temps. Je m'en rappellerai toujours, c'était un vendredi 13. Donc, moi, je l'ai vécu une grande partie en Inde et à mon retour, je dirais que c'est sûr qu'il y a eu des moments difficiles, mais aussi comme Louis, je trouve que ça a été une façon de faire une certaine introspection, puis ça a été un long voyage, mais ça a permis de réduire un peu la vitesse. Moi, exemple, quand j'ai des conditions de bipolarité, des fois, je roule aussi rapidement, comme je me reconnais en Louis quand on disait qu'elle arrêtait jamais. Donc, je trouve que ça a été une période d'introspection, puis après ça, c'est sûr que j'ai de la peine pour toutes les gens qui ont développé des conditions de santé mentale à travers ça, puis beaucoup d'empathie. Je pense que autant qu'il y a des gens qui l'ont vécu d'une manière un peu plus positive parce qu'ils ont eu du calme, autant que pour certains ça a été plus difficile, puis j'ai de l'empathie pour ceux que ça a été plus difficile.
Mais ce qui m'a sauvée, moi, c'est l'art.
Vous décidez.
Je me suis mise à dessiner ma vie et je me suis mise à écrire. Et là, je me dis, c'est tactile, hein, le dessin, la couleur. Et j'ai dessiné tous les jours. Et j'ai écrit tous les jours. Alors, je me disais, je ne me suis jamais ennuyée dans cette solitude-là. Cette solitude-là était habitée parce que j'ai la chance d'être un artiste. C'est quand même un grand privilège d'être près de ses émotions. Je peux capoter avec mes émotions, mais je peux faire quelque chose avec mes émotions. Mais c'est vrai.
Puis il y a Claude Legault qui dit que le bonheur, c'est pas si compliqué que ça non plus.
Mais non, c'est pas compliqué, c'est sûr.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Hugo Roson, qui est le réalisateur de cette série documentaire « Comme des papillons » disponible sur Vrai à partir de demain, 25 avril. Louise Latraverse était avec nous.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985fm.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Bonne nouvelle, la Fondation Vérou et Louis qui, dans les prochaines minutes, ils vont annoncer la création de deux nouvelles maisons pour offrir un milieu de vie pour les adultes autistes, mais il y a plus que ça. Et Louis Morissette est avec nous. Bonjour Louis.
Bonjour Paul.
Peut-être donner un peu le détail de ce que vous allez dire. Donc, c'est deux maisons qui s'ajoutent.
Oui, effectivement, on a beaucoup parlé de la première maison de la Fondation Vérou et Louis à Varennes, puis au cours des dernières années, on a amassé des fonds via différentes levées de fonds, notamment les chandails, puis je remercie beaucoup tout le monde qui a participé à ça, qui en ont acheté en grand nombre. On a pris 2 ans pour bien définir le modèle, comprendre ce qu'on avait bien fait, ce qu'on avait moins bien fait. Puis là, après 2 mois là, d'expérimentation, on est fiers de dire qu'on va ouvrir 2 nouvelles maisons dans le centre du Québec, à Victoriaville, et dans les Laurentides, toujours en partenariat avec les organismes de la région.
Et ce matin, vous allez aussi présenter un donateur, là, et donc c'est pas banal ce qu'il vous propose.
Non. Oh non. Monsieur Marcel Lucier qui était ce matin sur la page frontispice du Journal de Montréal qui a gagné 70 millions de dollars avec l'Auto-Québec, l'Automax. Lui quand il a gagné, moi je regardais ça de chez moi, je me souviens, j'étais à la maison puis il dit oui, moi je veux de j'ai différents plans, je sais ce que je veux faire de mon argent, puis notamment, je veux donner à la Fondation Vérou et Louis. J'étais comme, comment? Est-ce que tu viens de nous nommer? Est-ce que ça tombe du ciel comme ça? Puis là, ben finalement, on a rencontré M. Lucier, puis il disait pas n'importe quoi. Il était sérieux. Son plan était fait. Et là, donc, ce matin, on va annoncer qu'il fait un don de 7 millions à la Fondation Vérou-Louis pour construire lui-même une maison. Puis je dois dire que, tu sais, souvent, Paul, dans, le matin dans votre émission, il y a souvent pas des mauvaises nouvelles, mais on doit rectifier certaines choses et remettre l'ordre. Mais M. Lucier représente tout ce qu'il y a de plus beau dans l'humanité puis dans l'être humain. Il est arrivé comme ça. Puis lui, Guylaine Gay, ça, le parcours puis le destin de Guylaine Gay, ça le touche beaucoup, beaucoup. Puis il nous a rencontrés avec Guylaine, puis il a dit, Guylaine, je vous suis, je sais ce que vous faites, je connais votre plan, je te connais, je connais ta vie, puis je veux t'aider. Puis à partir de ce moment-là, on a développé le plan pour qu'il nous aide.
Oui, mais c'est assez... parce que bon, tu sais, de dire je donne, c'est une chose, là, mais je rappelle que c'est 10% quand même de ce qu'il a gagné, le 7 millions. Il aurait pu dire 1 million, ça aurait été extraordinaire, là, mais 7, c'est quand même quelque chose. Là.
Mais c'est quelque chose de certain. Puis quand ça a commencé, puis il y a 17 millions, là, tout le monde était excité, puis je faisais comme, hey, les amis, il y a plein de gens qui vont lui demander de l'argent dans les prochaines semaines. S'il donne 250 000, il change notre vie. On ne lui met pas de pression. Puis finalement, il a fait comme, non, oui. Il revenait toujours et il disait, oui, je t'ai dit 7 millions. Ça va être 7 millions. OK, c'est parfait. Puis je sais que même il y a des gens qui le conseillent, qui faisaient comme, voulez-vous réfléchir, voulez-vous y repenser. Il dit, non, mais moi, quand j'achète mon billet, mon plan, il est fait. Puis à l'âge que j'ai, mon plan est fait. Fait que je
disais. Non, mais ce que je disais un peu, puis ça s'inscrit dans le profil que tu décris. Bon, le monsieur a 79 ans. Il a 70 millions. Il veut pas de grosse maison. Il veut pas gaspiller ou de. Il veut pas de luxe. Il aimerait ça financer un film sur la Nouvelle-France, puis le moine, puis tout ça. Puis c'est légitime. Ça, dans le fond, les causes qu'il aime, les sujets qu'il passionne, il se dit j'ai l'argent pour faire ça à mon âge.
Ben exactement, puis je le répète, il le faisait depuis des années. Il c'est écrit dans le journal, là, depuis des années, il va avec la même combinaison, puis quand il achète, il sait, si je gagne, c'est ça qui arrive. Puis M. Lucier, c'est quelqu'un de très humain, en même temps quelqu'un de très pragmatique, fait qu'il a juste appliqué son plan, puis il a une passion pour l'histoire, puis il a une passion pour... c'est quelqu'un qui fait ses recherches pour prendre l'expression consacrée, mais il est fait à la bonne place. Fait que quand il est arrivé, puis il discutait de notre mission de fondation, mais j'avais pas besoin de lui expliquer à midi 14 heures, là, il savait très bien ce qu'on voulait faire et où on s'en allait, et ça allait un peu dans la même lignée, puis lui, l'autisme le touche dans sa famille, fait qu'il a dit, j'embarque avec vous autres.
Ben, c'est admirable. Est-ce que vous avez d'autres annonces ou ça complète la journée?
Ben, en fait, on va quand même annoncer qu'on investit 1 million au cours des 5 prochaines années en recherche. Puis c'est pas banal parce que on va développer encore plus nos connaissances sur l'autisme chez les adultes de 21 ans et plus, qui est notre mission. Donc, on va investir 1 million en recherche au cours des 5 prochaines années et ouvrir 2 maisons. Pour l'instant, ça va être ça. Ça va être déjà beaucoup de choses à gérer. Bon. Fait qu'on va continuer nos activités, mais ouvrir 2 autres millions.
Puis on surveille les prochains tirages de l'Auto-Québec.
Oui, il y a des gagnants qui nous écoutent. C'est toujours une très bonne idée de donner à des
causes. Oui,
c'est une très bonne idée.
C'est très facile à trouver, la Fondation Louis Véro. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Louis.
Merci, Paul.
Au revoir. C'était Louis Morissette. Mais je trouve que ça fait quand même du bien dans le paysage printanier qu'on a. T'sais, c'est vrai que le matin ici, c'est pas toujours la joie de vivre puis les nouvelles. Mais c'est quand même un message. Le gars, il a gagné 70 millions, 70. Vous allez me dire, 79 ans. Mais il aurait pu partir. Puis on a vu des gagnants là, de gros lots qui, malheureusement, mal conseillés, ont presque tout perdu. Mais lui, il dit, moi, voici mes passions dans la vie. Voici les causes qui m'intéressent. Voici ce qui représente mes valeurs. Puis finalement, c'est ça que j'ai envie d'aider. Puis il aurait pu donner, comme on disait, 1 million. Puis là, c'est 7 millions. Quelque chose.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
On poursuit avec une demande d'accès à l'information que Radio-Canada a formulée pour obtenir des chiffres concernant ce qu'on appelle des fouilles complètes. Pas une fouille à nu, là, mais quand même. On parle de fouilles complètes. Il y en a eu en 2022 dans les centres jeunesse, 5 700. Et là, j'entends les deux parties, là. La Commission des droits de la personne et la jeunesse qui dit c'est inacceptable, ça prend des motifs très graves, très sérieux, très précis pour faire ça. Puis j'entends des intervenantes qui, depuis hier, me disent, ouais, mais c'est pour éviter, par exemple, que de la drogue entre dans les centres, que des armes soient également utilisées à l'intérieur, notamment pour des jeunes qui veulent s'automutiler. Avec nous ce matin, la présidente de cette commission qui a donc enquêté sur l'état des services aux jeunes au Québec. Régine Laurent est avec nous. Bonjour, Régine.
Bien le bonjour.
5700 fouilles en 2022. Est-ce que tu trouves que c'est beaucoup? Comment tu vois le chiffre puis les raisons qui entourent ces fouilles?
Je peux pas dire que je sois très surprise. C'est une des raisons pour lesquelles on avait rapidement demandé qu'il y ait une DPJ nationale. Et si vous me donnez 30 secondes, je vais vous expliquer pourquoi.
Allez-y.
Et ça vient de beaucoup de témoins qu'on a entendus en audience. On a dit ça prend quelqu'un au national qui va avoir la responsabilité de regarder les pratiques en protection de la jeunesse, qui va s'assurer que les normes sont respectées, qui va exercer un contrôle. Et ça, quand le ministre Carman a changé la loi sur la protection de la jeunesse comme on l'avait demandé, la DPJ nationale a des pouvoirs. Fait que moi, je suis contente de vous parler ce matin là, mais la DPJ nationale doit nous dire où ça en est. Parce que le problème, je reviens à l'article de la presse, là, on nous dit que presque tous les CIS et CIUS n'ont pas été en mesure de fournir les données.
C'est vrai.
C'est un des problèmes majeurs. Si on n'a pas les données de partout au Québec, comment est-ce qu'on peut avoir un regard juste et voir où il faut changer les choses, voir où il y a des bonnes pratiques pour être capable de les harmoniser partout au Québec? Parce que je vous rappelle que le premier chapitre de notre rapport s'appelle « Respecter et promouvoir les droits des enfants ». Alors, on comprend que les enfants qui sont en réadaptation en centre jeunesse, oui, il faut assurer leur sécurité, mais quelles sont les normes de pratique qu'on met en place pour s'assurer du respect de l'enfant, que ça ne vienne pas leur donner le sentiment d'être humilié, qu'ils n'en fassent pas des cauchemars? Alors, si on n'a pas les données d'une année à l'autre pour la province de Québec, comment on peut agir?
OK, je partage avec toi, et c'est une synthèse là, de commentaires que j'ai reçus d'intervenants qui me disent, quand on fait ça, puis là, on me donne un exemple, là, une jeune qui est enceinte, qui est reconnue pour avoir des idées suicidaires, qui s'est automutilée, qui a droit à une sortie en famille, qui revient au centre, on lui dit, écoute, montre-nous ce que tu as dans tes poches, qui veut pas... Puis on l'a fouillé comme ça, puis on a trouvé des lames de rasoir, puis ça nous a permis peut-être d'éviter le P. L'intervenante ce matin, là, qui écoute, se dit, mais comment moi je vais encadrer ma pratique quand j'interviens, puis quand je laisse faire?
Mais justement, c'est pour ça, parce qu'il y a des rencontres avec la DPJ nationale et tous les DPJ régionaux pour dire, par exemple, dans ce cas-là, vous et moi, on est d'accord qu'il faut cette fouille-là pour la sécurité de cette jeune fille-là. Dans d'autres cas, est-ce qu'on a des questions à se poser? Est-ce qu'il y a peut-être une autre façon d'arriver à ses fins pour pas que le jeune ou la jeune se sente jamais cru, toujours en suspicion? En protection de la jeunesse, il n'y a jamais rien qui est complètement tout noir ou tout blanc. On est toujours dans les nuances. Et c'est une loi qui est très intrusive. Raison de plus pour vraiment encadrer la pratique, pour s'assurer que partout, tout le monde agit toujours en pensant aux droits de l'enfant qui est pris en charge par l'État.
Faut pas que ça soit une mesure disciplinaire. T'sais. C'est quelqu'un, mettons,
exactement,
qui rebelle un peu, puis tu dis, ben viens ici, m'a te montrer qui est l'autorité, puis je vais te faire une fouille complète, là.
C'est ça, mais je reviens encore, ça a l'air banal, je reviens encore aux données. Presque tous les CIS et CIUS ne pouvaient pas nous donner dans quel moment ça se passe, pourquoi, quelles circonstances, c'était quoi le profil de ces centaines de jeunes, c'était quoi le profil? Est-ce qu'il y a un profil particulier où on dit, ça, on pourrait agir autrement? Mais tant qu'on n'a pas le portrait, on peut pas le faire. Et je reviens, ça, vous devez absolument parler à la DPJ nationale.
Régine, merci beaucoup.
Merci, bonne journée.
Au revoir. Régine Laurent qui a présidé cette commission d'enquête, qui est aussi aujourd'hui analyste à LCN.
Vous voulez plus de balado C23? Rendez-vous dans la section balado du 985FM.ca ou dans l'application Cogeco Média. Tous nos balados sont aussi disponibles sur Apple et Spotify.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, Nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, entourant toute la question de l'avortement, on sent et on perçoit ce vent de droite qui souffle. De plus en plus, c'est compliqué pour des femmes de faire respecter ce droit, puis c'est compliqué aussi d'avoir accès tout court à l'avortement. La ministre responsable de la condition féminine au Québec, Martine Biron, veut légiférer, on ne sait pas encore précisément la direction, mais pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive qui nous touche ici au Québec et qu'on respecte vraiment ce droit des femmes à l'avortement. Elle est avec nous ce matin. Martine Biron, bonjour.
Bonjour.
La première question, qu'est-ce que vous pouvez faire vraiment? Comment vous pouvez intervenir?
Il y a différents moyens, je dirais, mais je pense que c'est important de rencontrer les acteurs de la société civile pour, en fait, trouver justement le bon moyen. C'est sûr que je suis législateur, j'aimerais bien légiférer, mais je pense qu'au moment où on se parle, le Québec ne peut pas tenir pour acquis que le droit des femmes de choisir l'avortement ne sera jamais remis en question au Canada. Et je pense que le Québec doit s'occuper de ses propres affaires et poser ce geste-là, un geste fort.
Quand vous regardez la jurisprudence, est-ce que vous vous dites il y a des risques de contestation qui pourraient nous toucher ici, que le droit à l'avortement, on a tous l'impression là, que c'est enchâssé, que c'est solide, mais qu'il est en même temps fragile?
Oui, c'est fragile parce que bon, on a vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Roe v. Wade, ce jugement a été rendu en 1973, il a été attaqué régulièrement au fil des ans. 49 ans plus tard, le jugement a été renversé. Ici, au Canada, on est dans une situation différente. En 1988, l'avortement a été décriminalisé. Ça fait donc 35 ans. Mais quand même, Paul, je vous dirais qu'il y a eu 48 tentatives pour tenter de limiter le droit de choisir des femmes au fil du temps par différents dépôts de projets de loi privés de différents députés. Actuellement, il n'existe pas de loi fédérale qui protège le droit des femmes à l'avortement au niveau canadien, puis je dirais qu'il y a même une entente tacite que le gouvernement ne légiférera pas pour restreindre ce droit-là. Mais moi, je me dis, qu'est-ce qui me dit qu'en changeant de gouvernement, qu'est-ce qui me dit qu'en évoluant? En fait, on dit souvent que quand les États-Unis éternuent, on pogne le rhume. Nous autres, ici au Québec ou au Canada, je me dis, le climat actuel, il est inquiétant. Alors moi, je pense que à tout le moins, il faut poser un geste fort, parce que si jamais au fédéral, on décidait de légiférer, ben le Québec sera sur le chemin.
OK, mais quand vous me dites un geste fort, là, on peut le regarder de trois façons. La première, vous exprimez comme vous le faites aujourd'hui. Deux, un projet de loi. Puis trois, modifier la Charte québécoise. Vous êtes à quel endroit?
Je suis pas mal dans ces eaux-là, je dirais. Ce que je veux faire d'abord, là, c'est que je veux consulter la société civile, voir qu'est-ce que les gens du secteur de la santé, les groupes de femmes, les gens qui sont dans le juridique, le Barreau du Québec, par exemple, pensent de ce geste-là. Quel type de geste pourrait être fort? Est-ce que c'est sûr que je suis législateur? Mon souhait, ce serait de légiférer. Jusqu'où on va, on verra. Mais je pense que la discussion devrait être engagée. Puis c'est ça que je veux faire, discuter, okay. Puis ça va arriver au mois de septembre ou octobre, c'est-à-dire à l'automne, où je vais prendre une décision finale. J'ai l'appui de Simon-Jolin Barrette dans ce dossier-là, qui a mis en place une équipe de juristes qui m'aide et qui m'accompagne dans le processus.
OK, mais ça veut dire que vous excluez pas un projet de loi ou encore une modification à la charte?
J'exclus rien. Okay. Et je pense que je suis au bon endroit, Paul, parce que je me suis au sondage de 2022 léger avant le renversement de Roe v. Wade, qui disait que 89% des Québécois et Québécoises, hommes et femmes inclus, estiment qu'il faut respecter le droit des femmes de choisir. Alors, je pense qu'on est au bon endroit et c'est le bon moment de le faire. C'est pas quand c'est contesté ou revu que c'est le temps de se positionner, mais en le faisant maintenant, je pense que ça va être assez clair où le Québec se situe sur cet enjeu-là.
Il y a une autre réalité. Reconnaître un droit, c'est une chose. mais d'avoir accès à une clinique d'avortement, par exemple, pour faire respecter ce droit, c'est autre chose. On voit des provinces au Canada, là, dans les Maritimes notamment, qui reconnaissent le droit, mais c'est à peu près impossible pour une femme là-bas d'avoir un avortement, disons, dans un rayon qui a raisonnable. Comment vous allez faire pour vous assurer que des cliniques d'avortement qu'on retrouve ici au Québec et qui ont parfois à se battre pour obtenir du financement, à se battre pour se protéger contre des groupes de droite qui manifestent parce qu'on veut limiter l'accès aux femmes, qu'est-ce que vous pouvez faire pour dire à ces cliniques puis les rassurer en disant on va prendre les moyens, que c'est pas juste reconnaître un droit, mais c'est qu'on va favoriser l'accès?
Je vais vous dire deux choses là-dessus. D'abord, au Québec, on a une cinquantaine de cliniques d'avortement. Ceux qui nous suivent, c'est l'Ontario avec 26 cliniques d'avortement. Alors, on est déjà de loin l'endroit où il y a le plus d'accès. On va avoir, bien sûr, dans cette discussion-là, dans cette conversation-là, dans les prochaines semaines, ça va faire partie, là, l'accès. On va également probablement parler de la pilule abortive qui est peut-être mal connue. Des différents outils qui s'offrent aux femmes qui sont moins connus. L'autre chose que je vous dirais sur la question de l'accès, c'est que Christian Dubé, que j'ai consulté d'ailleurs dans ce projet-là, vous avez vu son projet de loi sur la réforme de la santé. En une phrase, son projet à Christian, c'est donner plus d'accès. Alors, on peut légitimement penser que les droits des femmes ou la santé des femmes sera prise en compte.
OK. Il y a aussi, c'est un autre volet, là, c'est la violence conjugale. La presse dit ce matin, à partir des propos de vos collègues libérales, là, que les maisons d'hébergement débordent pour les femmes, des femmes qui sont victimes de violences puis qu'on ne peut pas accueillir, qu'on ne peut pas héberger.
Oui. Ça, évidemment, ça me préoccupe beaucoup. Il y a quand même eu beaucoup d'argent qui a été mis au cours du dernier mandat. En fait, depuis 2018, le gouvernement du Québec a mis à peu près 950 millions de dollars pour contrer la violence conjugale. Il y a un autre 30 millions supplémentaires qui a été accordé dans le dernier budget. On est conscient qu'il y a des problèmes de logement puis d'accueil pour les femmes violentées, mais on a mis en place un réseau qui est presque complété d'urgence. Aucune femme ne sera laissée seule. Alors, avec cette aide d'urgence-là, on peut aider les femmes à être placées dans des hôtels dans les différentes régions où elles se trouvent. Et là, on essaie de trouver une solution plus pérenne à leurs problèmes. Mais c'est certain qu'on est bien conscient que les femmes ne peuvent pas retourner dans leur maison à elles avec leur agresseur dès qu'elles sont prêtes à dénoncer. Alors, on a différents moyens, je dirais, d'urgence pour pouvoir accueillir ces femmes-là et les aider sur le coup.
Je sais que vous avez un caucus ce matin avec vos collègues de Chaudière-Appalaches et de Québec et le premier ministre. Ce matin, on peut lire qu'on s'attend à ce que M. Legault s'excuse, fasse son mea culpa. Vous, vous attendez à quoi?
Ben, je ne sais pas. Je vais écouter attentivement. Alors, on va tous être là, l'ensemble de Québec et de Chaudière-Appalaches. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est sûr que moi, je suis déçue de cette décision-là. J'ai milité pour le troisième lien pendant la campagne électorale. Je suis déçue. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on ne tient pas ses promesses? Généralement, on essaie de compenser. C'est ce que j'ai fait, moi, dans ma vie quand ça m'est arrivé, parce que j'accorde quand même une certaine importance à tenir mes engagements, mais ça arrive qu'on ne peut pas le faire. Alors, je m'attends à une compensation. J'estime que les citoyens des Chutes de la Chaudière actuellement, ils n'ont pas leur part du gâteau avec le retrait de ce projet-là. Et je veux que les citoyens des Chutes de la Chaudière et de Chaudière-Appalaches, toute l'ensemble de la région, aient leur part. Alors, ça va être ça, moi, mon message. Je trouve qu'il y a un déséquilibre au moment où on se parle qu'il faut compenser.
En d'autres termes, vous allez dire au premier ministre, maintenant que tu as coupé le projet de 10 milliards, je veux m'assurer qu'il y aura des investissements dans des projets, dans des infrastructures dans mon comté puis dans la région.
Exactement. Les gens sont déçus dans ma circonscription. Puis je pense qu'il faut leur rendre, c'est-à-dire qu'on leur a enlevé une promesse, on leur a promis quelque chose, on n'est pas capable de le faire. C'est ça qu'on fait quand on n'est pas capable de remplir ses promesses. On compense, on dit, ben regarde, j'ai pas pu faire ça, mais je vais faire ça à place.
Mais est-ce que vous voulez que le PM s'excuse de la façon dont ça a été géré, que les députés ministres n'ont pas été mis dans la boucle, comme on dit?
Ben, je vais entendre ce que le premier ministre va dire. Ça, je pense que c'est primordial. Je pense que je vais le laisser parler, puis après, peut-être que je pourrais passer des commentaires, mais là, je vais y aller au caucus ce matin à 8h30, puis je vais entendre ce qu'il va me dire.
OK. Dernière question là-dessus. Moi, j'ai eu l'impression, au départ, que vous étiez contre le troisième lien, que vous êtes présenté pour la CAQ, qu'on vous a convaincu d'être pour. Puis là, c'est encore plus décevant quand on dit « ils m'ont convaincu, puis ils tirent la plogue ».
Non, j'étais pas contre le troisième lien. Je pense que c'est pas le cas. Dans ma région, on le veut, surtout les gens d'affaires qui le voulaient. Écoutez,
mais vous n'étiez pas enthousiasmé par le troisième lien au départ?
Attendez pas. D'abord, il y avait des d'abord, les ponts étaient congestionnés. C'est vrai que le trafic de l'été, puis ça va être comme ça l'été prochain aussi. Mais plus que ça, on parlait des suspentes du pont Pierre-Laporte, qui était affaibli. Moi, dans ma tête, si vous vous rappelez le point de presse que j'ai fait le 10 août, quand je me suis présentée en politique, j'avais dit, ça prend un lien de remplacement. Ça prend autre chose. Le pont de Québec est toujours au CN, toujours pas vendu au gouvernement du Canada. Il y a des travaux importants à faire dessus. On parlait beaucoup des suspentes sur le pont Pierre-Laporte. Le pont Pierre-Laporte, c'est le seul pont qui reçoit du transport lourd. Alors, je me disais, c'est certain que ça prend un autre lien. Ça prend un autre accès pour les citoyens, quelque chose de moderne. Alors, quand je l'ai vendu et quand je l'ai défendu, j'y croyais. Je ne m'attendais pas à ce qu'on tire la plug sur ce projet-là. Okay. Vraiment pas.
Martine Biron, merci. Bon caucus.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée.
Martine Biron est la ministre de la Condition féminine, de la francophonie et des relations internationales.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
Maintenant, on va parler de protéines végétales. C'est intéressant, il y a une étude qui est publiée ce matin et qui montre qu'en gros, là, 2 Canadiens sur 5 ont l'intention quand même d'acheter ces produits à base de protéines végétales, mais que donc le consommateur trouve que ça coûte bien cher. Sylvain Charlebois est avec nous, qui, vous le savez, est de l'Université Dalhousie. Sylvain Charlebois, bonjour.
Bonjour, Paul.
Il y a eu, puis là je parle toujours en termes de perception, cette vague autour de Beyond Meat. Là, on avait l'impression que c'était l'envol et que tout le monde allait se ruer vers les protéines végétales. C'est pas tout à fait le cas, mais il y a encore une clientèle quand même fidèle.
Ouais, c'est surprenant. Il y a 5 ans, en fait, Beyond Meat, c'était l'évasion de Beyond Meat. Là, il y avait beaucoup de produits à base de protéines végétales qui nous étaient offerts à l'époque. Et puis là, tout le monde se posait la question, est-ce que la viande elle va devenir obsolète? C'est pas du tout ça qui s'est passé. À l'époque, en fait, ce qui se passait, c'est qu'il y avait beaucoup de produits qui tentaient de remplacer quelque chose que beaucoup de gens aiment, ce qui est de la viande. Le bœuf, le porc, le plus, et la demande est quand même assez forte. Mais ce qu'on remarque aujourd'hui, c'est que le marché est beaucoup plus mature et les produits ont changé un petit peu. Au lieu d'être obsédé de remplacer quelque chose, on tente d'offrir quelque chose d'unique et nouveau aux clients.
Mais ça veut dire que la partie... Au Québec, c'est quoi? C'est 34%, je pense, c'est tout ça?
C'est ça.
Ouais, c'est
34%,
ça.
Exactement.
OK, des gens qui consomment. Ça veut dire que le marché de la viande est encore fort, là. Je comprends qu'il y a des gens qui en mangent moins qu'avant, moins de fois par semaine ou moins de fois par mois, mais disons que les bouchers sont pas à la veille de fermer, là.
Non. Ben, en fait, quand on regarde la tiercée des viandes, il y a 3 histoires. Le bœuf, la demande est en baisse par capita. Le bœuf est un produit pas mal plus cher. Là. Et on s'attend à une hausse, là, en fait, avec le prix du bœuf à la ferme. Là, ces temps-ci, on s'attend à une hausse là, probablement au mois d'août, septembre de cette année, malheureusement. Là. Donc, la demande baisse. Le porc, la demande est quand même assez forte et les prix sont très bas. En passant, Paul, les prix pour le porc sont semblables à il y a 5 ans.
Et comment on explique ça?
C'est vraiment un surplus d'offres. Ben, vous savez ce qui se passe avec Olimel. La ouais. Chine achète moins. Il y a beaucoup de produits sur le marché. Alors, c'est pour ça que il y a de la liquidation un peu. Là. Le porc est pas cher. Le poulet a augmenté en prix essentiellement en raison de la grippe aviaire. Mais en gros, la demande pour ces produits-là, il y a du trafic au comptoir des viandes. Et on tente de positionner la protéine végétale de façon un peu différente. Et depuis ce temps-là, ben il y a beaucoup, beaucoup de gens qui adoptent ces protéines-là. Là.
Bon, vous disiez tantôt que c'est sûr qu'il y a un intérêt, il y a une clientèle, il y a un marché, mais que le prix, quand même, préoccupe pas mal le consommateur.
Oui. Oui, ben l'an passé, on publiait une étude, on comparait les prix, puis en moyenne, les produits à base de protéines végétales étaient à 38 à 40 plus chers que la viande. Alors, c'est pour ça que si quelqu'un s'intéresse à la protéine végétale et on vous offre quelque chose qui goûte semblable, mais on vous demande de payer plus cher, pourquoi changer? Mais là, maintenant, ce qu'on remarque, c'est que les prix sont beaucoup plus compétitif, mais les produits sont en moyenne un petit peu plus chers. Moi, j'ai l'impression que d'ici quelques années ou même quelques mois, les produits à base de protéines végétales vont diminuer en prix et vont devenir beaucoup plus abordables qu'ils le sont actuellement.
Merci beaucoup. Bonne journée. Sylvain Charlebois, qui est de l'Université Dalhousie.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Fred, on est dans le domaine de l'éducation par la bande. Là, tu nous parles d'un conducteur d'autobus complotiste qui partageait de la documentation anti-éducation avec les élèves qu'il transportait.
C'est toute une histoire qui fait pas mal jaser sur les réseaux sociaux à Vaudreuil. Ça s'est passé dans un bus scolaire de Bissonnette Transport qui desservait au moins une école primaire du coin. Le conducteur en question était à l'emploi de l'entreprise depuis le 16 janvier dernier, donc c'est assez récent. C'est un conducteur occasionnel. Et on le sait, hein, ce secteur-là est lui aussi touché par la pénurie de main-d'œuvre. L'homme en question est adepte de théorie du complot. Si on se fie à ses réseaux sociaux que j'ai pu consulter, c'est tout un phénomène. Il se fait appeler Rex en ligne. Il avait récemment annoncé à son employeur qu'il allait démissionner. Il a donné un préavis, donc conduisait encore des autobus jusqu'à son départ. Il a dû dire, hey, moi, je me paye la traite avant de partir. Donc, vendredi dernier, sur la route matinale, il a distribué des feuillets qu'on qualifie d'anti-éducation aux élèves.
Ils ont quel âge, les élèves?
C'est des écoles primaires, donc moins de 12 ans, 5 à 11, mettons. Et dans ces tracts-là, là, il fait l'apologie de Dieu, il propose une vision différente au programme du ministère de l'Éducation du Québec, comme si l'univers l'a littéralement envoyé sur le chemin de ces jeunes-là. Ça tient pas debout, mais pas du tout. L'entreprise de transport a eu vent de cette histoire-là rapidement. Elle a visé le centre de services scolaires des Trois-Lacs. Ils ont remplacé le chauffeur pour la route de l'après-midi. Ils ont mis fin à ses fonctions sur le champ. Et j'ai obtenu la réaction d'Émile Cadieux, qui est vice-président de Transdev Canada. Pour la petite histoire, Transdev a acheté Bissonnette Transport récemment. Il s'est dit consterné par les actions du chauffeur, qu'il s'excuse auprès des parents et des enfants touchés par la situation. Il ajoute aussi que les opinions exprimées par le monsieur ne reflètent en aucun cas celles de Transdev ou de Bissonnette Transport. Ça va à l'encontre du code d'éthique et de la formation de l'entreprise. Ça a fait pas mal jaser dans ce coin-là.
Bon, le ramassage des branches et des arbres cassés lors du verglas, ça fait beaucoup jaser. Il y a encore des branches. Ça dépend des arrondissements. C'est sûr, des arrondissements où il y a moins d'arbres, ça va plus vite, là. Mais il y en a d'autres, comme Outremont, ça prend du temps.
Plateau, Hochelaga, Villeray, des fois, c'est plus difficile. Mais dans le cas d'Outremont, c'est assez particulier. Comment on fait pour expliquer qu'après 3 semaines, ça traîne encore? C'est que, ça, c'est l'information que j'ai obtenue, il y a des équipes privées qui ont été mises sur place. Là, il y en avait une, on a triplé ça, on est rendu à 3. Il n'y avait pas d'équipe délagueur à l'arrondissement. Donc, dans les premières heures de la crise...
Non, mais c'est assez aberrant, là. À Outremont, s'il y a une place, il y a des arbres. C'est bien là, puis t'as pas des lagueurs.
T'es à côté de la montagne, c'est particulier. On a mis la pédale au fond dans les premières heures de la crise. On a mobilisé les cols bleus, ça allait rondement. Puis après ça, ben, il y a eu rappel à l'ordre par rapport à la convention collective. On a mis le frein assez rapidement. On s'est rendu compte de part et d'autre que ça allait trop vite, Paul. Résultat.
Wow. Prenez votre temps. On n'est pas pressé. On les ramassera quand ce sera le bon moment. On va commencer par les brindilles, puis on reviendra plus tard pour les bourgeons.
Et le syndicat et l'arrondissement ont dû négocier une lettre d'entente qui a pris à peu près une semaine à négocier, puis on dit là, que ça a super bien été.
Good.
Alors imaginons, si ça n'avait pas bien été, qu'il y avait eu un bras de fer, ça aurait peut-être été encore plus long. On a formé des gens, on leur a fourni l'équipement nécessaire, et l'équipe est en fonction depuis hier, Paul.
Bon, mais tout le monde, l'entente est faite, ils sont formés, ils ont l'équipement, fait que là, ils peuvent commencer.
Et il y a des photos sur les réseaux sociaux de gens qui ont même mis des affiches sur certains arbres avec la
Maman,
mention...
Maman, c'est moi?
Oui, notamment, et République de bananes, c'est ce qui est écrit. On suppose que si une situation s'est passée comme ça avec les syndicats à Outremont, ben, il y a clairement d'autres arrondissements où ça s'est passé de cette façon-là.
Ça. Mais écoute, moi, il y a des gens qui me parlent d'Anjou, ça a bien été. Il n'y a pas beaucoup d'arbres en Anjou non plus. Non. Là, c'est moins dans des quartiers plus vieux. Ben, là, c'est sûr que c'est un peu plus complexe. Mais le défi, c'est de savoir qui est responsable de la ville-centre. notre productrice qui a beaucoup de panache, de ténacité, a tenté hier de localiser la personne responsable. Avons-nous un nom? Incertain pour le moment.
Monsieur Labranche.
Tu fais exprès, là. C'est possible.
Oui.
C'est possible. Oui. Mais, alors, ça fait, là, c'est des jeux de mots. Non, regardez ça, les gangs.
Il y a beaucoup de boulot sur la planche.
Oui, c'est ça. Là, ça va être assez. On va passer à autre chose.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.